Les manettes à la baguette sur RCN, Yoann Turpin.
Bonjour et bienvenue dans ce 13e épisode, 13 comme le vendredi 13, dernier de ce mois d'octobre 2023 que nous vivons. Et le mois d'octobre pour l'Occident, ça signifie toujours, avant le grand démarrage des fêtes de fin d'année, la date fatidique du 31 au soir, Halloween. Si nous avions fait l'impasse l'année dernière, durant la saison 1 des Manettes à la baguette, cette année nous n'y échapperons pas, et c'est grâce à Timothée G, alias Ventre Savant numéro 1, que j'ai concocté cette émission spéciale des musiques d'horreur, que vous pouvez écouter non seulement la semaine prochaine, mais aussi sur notre site internet RCN, dans l'onglet émission podcast à l'occasion de Halloween, sait-on jamais. Bon, je vais faire l'impasse dans cette introduction sur toute la partie commerciale ou la réutilisation des vieux mythes celtiques liés à Halloween, car ce qui nous intéressera aujourd'hui, c'est comme l'horreur, l'épouvante et la peur qui sont traités à l'image et au-delà même musicalement. On peut même dire que dès l'origine du cinéma, puis la télé et enfin le jeu vidéo et par extension dans les séries, le goût pour se faire peur a été présent sitôt qu'il y avait des représentations symboliques narratives, opéra, théâtre, et ça ne manque pas de manifestations dans ce genre. Ce n'est pas neuf et c'est en plus très vaste comme sujet. Or, il se trouve que moi, votre animateur qui vous parle, je suis un fan de ce genre de spectacle et que j'ai quelques idées derrière la tête et dans les oreilles pour vous faire entendre quelques morceaux de bravoure du genre. Démarrons par le jeu vidéo. Et pour ce faire, je vais vous reparler du maître de l'horreur dans ce genre dédié que l'on appelle le survival horror, sous-genre du jeu d'action-aventure ou encore le jeu de survie horrifique, pour le dire en français, je vais vous reparler de Resident Evil. Ce n'est pas, je le redis, une licence du film B d'horreur hein, ou de série B. Non, c'est vraiment Resident Evil, le père légendaire et incontesté du jeu vidéo d'horreur inventé en 96 par le génial Shinji Mikami. Le premier, disais-je, ce n'est pas tout à fait exact. Avant lui, il y a eu Alone in the Dark, Cocorico, puisque c'était un Français qui va lancer le genre du survival horror avec bien moins de succès que la mouture nippone de ce secteur. Avançons un peu dans le temps. En 2005, sort la bombe Resident Evil 4, qui voulait rompre avec le style zombie lent dans le manoir, avec une espèce de slash dans les laboratoires infestés de créatures mutantes à demi-mortes. Dans Resident Evil 4, on va véritablement faire entrer la licence du jeu de tir à la troisième personne et scinder la communauté entre les fans absolus et ceux qui vont le détester pour s'être beaucoup trop éloigné de son rythme habituel. En ce qui me concerne, j'indique que ce chapitre sera qualifié « jeu de l'année 2005 », classé 30e jeu le mieux noté de tous les temps par le site Game Rankings. Si Misao Sembongi signe la bande originale du jeu, cette année est sorti Resident Evil 4 Remake au mois de mars, et c'est cette fois-ci le génial Kota Suzuki qu'on retrouve à la baguette. Il s'est déjà fait la main sur ce genre horrifique, notamment en signant les partitions des Devil May Cry 4 et de Resident Evil 5. On écoutera ici le titre Thrill Ride pour illustrer une poursuite, ou devrais-je dire une fuite, celle de nos héros pour échapper à une créature gigantesque qu'un parasite espagnol possède diaboliquement. Première constatation, pour faire monter la pression chez le joueur, il faut quelquefois un rythme soutenu, des percussions sourdes proches du battement cardiaque qui s'envolent et des harmonies qui ne vous laissent aucune chance de vous en sortir. Une dialectique que maîtrisent parfaitement les Resident Evil. Comment vous parler de survival horror dans le jeu vidéo sans parler de ce qu'il se fait de mieux dans le domaine avec le grand rival des Resident Evil, la série des Silent Hill. Licence réputée pour avoir révolutionné le genre avec une approche plus psychologique, c'est Keiichiro Toyama qui lancera la licence avec 3 titres de 1999 jusqu'à 2012. On peut également dire que le jeu aura aussi à son droit à une adaptation cinématographique plutôt réussie par Christophe Gans, dont je vous conseille le visionnage. Je vais oser dire que Silent Hill maîtrise bien plus son sujet en termes de réalisation et de tension d'épouvante que son concurrent. En effet, on peut souligner l'usage de l'échelle de Jacob, ou la narration plus profonde avec des personnages, ou encore le positionnement ingénieux de caméra pour nous faire vivre un cauchemar éveillé dans toutes les itérations du jeu. À la baguette, il faut parler du grand, que dis-je, du très talentueux Akira Yamaoka, qui a créé un univers sonore dérangeant, glauque à souhait, surprenant par ses intégrations de sons industriels ou de samples déstructurés pour tisser et intisser des décalages dans le déroulé sonore, accentuant bien plus notre immersion. Enfin, rappelons qu'il est amateur d'électro-garbage, de mélodies tristes et de style rock, ce qui parachève son fabuleux travail pour Silent Hill, dont il deviendra d'ailleurs un des producteurs à partir du 3. Et c'est justement de cet opus qu'est tiré l'extrait qui va suivre. Un mot sur le pitch. L'héroïne Heather Mason se promène dans un centre commercial lorsqu'un détective l'importune. Elle court se réfugier aux toilettes et à son retour, tout a changé. La voilà piégée et elle va devoir retourner où tout a commencé, à Silent Hill. Voici le titre « Maternal Hearth ». Allez, faisons un tour dans les films d'épouvante ou d'horreur, mais ne nous aventurons pas dans les slashers classiques. Je vais vous parler plutôt de ces symboles horrifiques par le simple truchement de leur folie. Pour des raisons évidentes de noirceur ou de dérangement psychologique, justement au sujet d'un personnage particulièrement et doublement aussi intelligent, cultivé que psychopathe, tueur ou cannibale, le travestissement d'œuvres classiques préexistantes semble nécessaire, voire obligatoire. Eh bien, c'est le cas du terrible docteur Hannibal Lecter, anthropophage, génialement interprété à l'écran par Anthony Hopkins dans 3 films à succès. Son personnage est tiré du roman de Thomas Harris. L'intelligence et l'envie de meurtre font un mélange assez détonnant. C'est aussi le cas de cette géniale reprise du Beau Danube bleu de Strauss pour évoquer une valse tartare commise par le très dangereux Hannibal Lecter dans le film éponyme de 2001 par Ridley Scott. La qualité de l'écriture très filmique de Klaus Badelt sous la direction générale de Hans Zimmer traduit magnifiquement la complexité du personnage qui, malgré son apparence de méchant iconique, nous donnerait presque l'envie qu'il s'en sorte pour la qualité de ses interactions et liens avec l'héroïne de cet opus. Pour toutes ces raisons, j'ai donc choisi le titre Gourmet Valse Tartare, arrangé par Klaus Badelt, tiré du film Hannibal de Ridley Scott. Mesdames et messieurs, bon appétit et gardez le cœur bien écroché si possible. Parlons série maintenant. Il faisait longtemps avec un grand succès dans le genre horrifique. Et ce n'est pas souvent. Démarré en 2011, American Horror Story, avec pas loin de 12 saisons, s'est durablement installé comme la série épouvante de ces 10 dernières années sous la férule des géniaux Ryan Murphy et Brad Falchuk, à qui l'on devait déjà le succès Nip Tuck pour le premier. Le concept est simple, une histoire par saison avec quelquefois des rappels sous forme de caméos entre elles. Qui de l'Asile des Enfers ou du Coven de Sorcières ou encore la Maison Hantée font tout le loisir des amateurs du genre d'épouvante dans cette série. Un fil rouge tient cependant les saisons entre elles puisque le casting reste pour la plupart inchangé et redistribue les rôles pour chaque saison avec des ajouts ingénieux. Je ne peux m'empêcher de parler des magnifiques interprétations de Jessica Lange ou Sarah Paulson ou encore Lily Rabb ou Kathy Bates. À la baguette, c'est un compositeur du nom de James S. Levin, que nous retrouvons. Et c'est un grand habitué du petit écran, comme du grand. On peut citer sa participation en tant que musicien à Pirates des Caraïbes, dont nous avons parlé la dernière fois, ou encore le Pearl Harbor ou Madagascar pour ses musiques additionnelles. Quant à la télévision, eh bien, c'était déjà le compositeur de la série Nip Tuck, mais aussi Glee, NCIS pour le générique ou The Closer. Et justement, pour parler générique, James S. Levin s'est fait un génial plaisir de l'adapter à chaque fois à l'univers des saisons pour le grand bonheur des fans qui peuvent reconnaître le thème qu'on appellera musicologiquement leitmotiv et qui servira lui aussi de fil rouge à toute la série. Voici justement ce thème original tiré de la toute première saison d'American Horror Story avec à son bord son lot de grincements et d'arrangements musicaux tout à fait glaçants.
CN, les manettes à la baguette, Yoann Turpin.
Série d'épouvante toujours avec Penny Dreadful qui me permet de faire un lien d'ailleurs avec l'épisode d'il y a 15 jours car on y croise pas mal de monstres. Mais c'est lié me direz-vous. Dans Penny Dreadful, autant vous le dire, l'univers est sombre, sombre et glaçant. sombre, glaçant et même sanglant. Dans une Angleterre victorienne pleine de dangers avec ses vampires, sorcières et loups-garous américains, cette série américano-britannique a vu le jour en 2014 et a même le droit à un spin-off. Son nom d'ailleurs est tiré des fameuses revues Penny Dreadful, nommées de la sorte car elles ne coûtaient qu'un penny pour une fausse garantie. Un peu, si vous voulez, le pendant de Tale from the Crypt, les contes de la crypte américains. Pour composer la bande originale, on a fait appel à une sorte de petit nouveau, le polonais Abel Korzynowski, qui, non content de se tailler une belle part dans le monde de la musique à l'écran, est aussi responsable de la musique du film d'horreur La Nonne de 2018, dont un spin-off est actuellement sur nos écrans à l'heure où nous enregistrons cet épisode. Son travail très classique orchestral marche parfaitement à l'écran. La peur est décrite par le truchement des cordes et des vents avec des mouvements dramatiques tout en tension comme il se doit. Nous écoutons le titre Memento Mori tiré de la saison 2 de Penny Dreadful.
Thank you.
Dans cet épisode sur les musiques d'horreur et d'épouvante, je vais pouvoir faire un nouveau lien cross-média, comme il faut l'appeler de nos jours, en vous parlant d'un jeu vidéo, mais aussi de sa série correspondante. Ce n'est certes pas la première fois que je vous parle d'une transposition à l'écran, mais là c'est un beau succès dans un genre ma foi pas si simple, car il faut bien le dire, le genre de l'horreur, même s'il est populaire, reste tout de même un secteur niche. Or, pour rester un peu dans l'actualité, comment ne pas vous parler de The Last of Us, qui vient d'être adapté en série par HBO ? Eh bien, c'est originellement un jeu vidéo d'action-aventure à la troisième personne et bien évidemment un survival horror développé par Naughty Dog et édité par Sony en 2013. On y suit Joel et Ellie dans un monde post-apocalyptique où une épidémie 20 ans plus tôt ravagea le monde, ne laissant que des survivants pour la plupart hostiles ou infectés. Le jeu se démarque par son excellente réalisation et sa narration soignée. Le deuxième opus sorti en 2020 nous amène tout pile à la série sortie cette année par HBO et force est de constater qu'au sujet de la musique, on a fait appel au même compositeur en la personne de Gustavo Santaolalla, célèbre compositeur argentin. En effet, outre cette licence, il a écrit de nombreuses musiques pour le film et remporté de nombreux prix, dont deux fois l'Oscar de la meilleure musique de film en 2006 pour Le Secret de Brokeback Mountain et Babel en 2007. Au sujet de la série, il s'est entouré de David Fleming, assistant compositeur et musicien qui est aussi un habitué du petit écran et qui aura composé ce qui suit dans la bande originale de The Last of Us. Le titre Survive, moderne dans son orchestration et son écriture, se construit par vagues et par paliers de stress, ne cherchant qu'à augmenter l'adrénaline de celui qui regarde pour partager ce qui est vécu par les héros. Un cas d'école du style horreur que nous écoutons maintenant. Revenons au film. Avec ce long métrage que j'adore, que dis-je, que je révère comme faisant partie de mon top 3 personnel absolu des films qui m'ont marqué, je dois vous parler de ce monument de l'horreur moderne qu'est le fantastique Suspiria. Oui, alors, je suis laudatif, hein, voire hagiographique, mais considérez que tout ce que je vais vous dire à partir de maintenant sera totalement partial. Bref, Suspiria, sorti en 2018 et réalisé par le Sicilien Luca Guadagnino, est un remake ou une inspiration du Suspiria, un peu plus giallo, c'est-à-dire comprenez slasher italien, de Dario Argento qui était sorti en 1977. On y suit Dakota Johnson dans le rôle d'une jeune américaine enrôlée dans une prestigieuse académie de danse allemande, dirigée en fait par une assemblée de sorcières dans le Berlin de la fin des années 70 pendant l'automne allemand ou les années de plomb pour la référence historique. Ah, je ne peux vous dire tout ce que ce film me fait chaque fois que je le revois pour la millième fois, je me surprends même à être encore dérangé et perturbé comme si c'était la première fois. Je suppose que c'est ce que tout le monde a ressenti en voyant pour la première fois le film L'Exorciste. Eh bien, Suspiria, c'est mon exorciste. Exorciste à moi. Intrigue géniale et riche, réalisation et production assez époustouflante, jamais attendue, et que dire de ce casting avec Tilda Swinton, Mia Gott, Sylvie Testu, Chloé Grace Moritz, Jessica Harper, bref, que du beau monde. Bon, et la musique alors? Eh bien c'est là que ça devient totalement merveilleux, puisque c'est Thom Yorke qui s'en charge. Oui, oui, le Thom Yorke de Radiohead, le groupe britannique à succès. Je vous en prie, je pars du principe que vous connaissez le groupe Radiohead. Bref, dans la longue liste de ses projets solos, on inscrit la bande originale de ce film où il va instiller une musique toujours juste, électronique alternative, un peu rock, toujours très arty avec une esthétique aussi désuète que l'époque où se déroule l'histoire. Et pour que vous vous en jugiez, voici le titre folk, le peuple, qui correspond à la pièce que monte la troupe de danse dans le film. On assiste à une dérangeante transe qui ne devrait pas vous laisser aussi indemne à la fin qu'au début. Bon spectacle! Thank you. Pour terminer cette émission, je n'ai pas eu longtemps à chercher un extrait, une musique qui aurait un goût un peu final. Et pour ce faire, j'ai été pioché dans mes lectures horrifiques préférées. À vrai dire, rien de classique, puisque l'un de mes auteurs favoris est Stephen King, le, si ce n'est le, plus grand auteur de romans d'épouvante qu'on puisse citer. On ne compte plus ces livres d'ailleurs adaptés au cinéma, ça, Carrie, La Ligne Verte, Cimetière, bref. Mais pour notre épisode, je vous parlerai d'un film qui n'est sorti chez nous que brièvement et se trouve bien injustement relégué au rang des téléfilms oubliables. Il n'empêche que ce film est tiré de mon roman préféré de Stephen King, Bazar, ou en anglais Needful Things, les choses dont vous avez le plus besoin. Et si j'ai choisi cet extrait final, c'est que l'intention derrière la rédaction de ce livre, eh bien l'intention de Stephen King, disais-je, c'était d'en finir. D'en finir, oui, également, mais avec quoi ? Eh bien avec la ville de Castle Rock, où la plupart de ses histoires se passent. Il a donc imaginé une manière de rayer cette ville de la carte avec une formidable histoire de brocanteur un peu particulier qui demande en paiement trois fois rien. Trois fois rien ou rien, ou bien pire que ce que vous pourriez imaginer en fait, en faisant trois fois rien par le truchement d'un petit marché. Sans vous dévoiler l'histoire ou l'intrigue de ce roman que je vous incite à lire, je dois vous parler de sa transposition à l'écran avec le remarquable Max von Sydow dans le rôle de l'antagoniste. La musique de ce long métrage est tout bonnement délicieuse à mon sens, et c'est Patrick Doyle, compositeur britannique de renom, qui s'en charge. Vous l'avez déjà entendu aux manettes à la baguette avec l'émission qui parlait des monstres, puisqu'il a fait la musique du Frankenstein de Kenneth Branagh, et cette fois-ci, Doyle mêle les paroles religieuses avec le dies irae, dies ira presque mozartien dans l'esprit pour nous instiller une menace grandissante d'une fin apocalyptique à venir. Une tension qui monte tout au long du film, avec ses atrocités et ses drames horribles tout aussi délicieux les uns que les autres, et qu'il me semblait judicieux de vous faire entendre maintenant. Voici The Arrival de Patrick Doyle, tiré du Bazar de l'épouvante.
Thank you.
Et voilà, ce sera tout pour cet épisode horrifique qui était dédié à Tim. Quant à moi, je vous conseille fortement de vous divertir et d'écouter ce qui vous entoure, zombies, monstres ou toute horreur de votre choix. Mangez également des sucreries si on vous en donne et faites tout cela, eh bien, tout cela à la fois.